qu'à Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André Lumbashi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de rejoindre Radio Okapi, la fréquence de la paix. La lourdeur administrative douanière constitue un frein pour les désengorgements du port de Matadi et aussi un facteur de contre-performance pour les régies financières. Pourtant, pour l'exercice fiscal 2013, le gouvernement congolais souhaite que les régies doublent leurs assignations. Nous en débattons aujourd'hui avec comme question principale, pensez-vous que l'amélioration des conditions liées aux procédures douanières devra réellement contribuer à la performance des régies et financières? Rejoignez-nous pour participer à cet échange à l'adresse pia@radiokapi.net ou encore appelez-nous au 081 890 6315. Titi Poutou, Pierre et Lamegi sont à la réalisation de ce programme mis en onde par Jean-Claude Donciala et présenté par J.R. Mugembo sous la supervision de Nicole Gaga et merci à Berry également qui fait partie de l'équipe de production. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
On n'en parlera pas assez, pour la problématique de désengorgement du port de Matadi est directement liée aussi à la performance qu'exige le gouvernement congolais aux régies financières. Nous en parlons donc aujourd'hui avec vous, chers auditeurs, vous qui avez déjà pris inscription pour participer à ce débat, merci, et vous qui nous rejoignez, bienvenue. Nous avons dans ce studio Gabriel Mouipou, directeur général adjoint à la DGDA, en charge des questions administrative et financière. Monsieur Mouipou, bonjour.
Bonjour Monsieur J.R.
Voilà, d'entrée de jeu, avant que nous entrons dans les vifs du sujet, pour permettre à ce que les auditeurs puissent intervenir et aussi échanger avec vous et avec nous également, avec leurs contributions, nous aimerions bien de nous faire une idée sur les bilans de l'exercice fiscal 2011-2012 au niveau des régies financières, en tout cas toutes les régies financières, mais en particulier au niveau de la DGDA.
Merci beaucoup, Monsieur J.R., pour cette opportunité que vous nous offrez ce matin pour que nous puissions donner à vos auditeurs les précisions, notamment en ce qui concerne le bilan en matière de mobilisation des recettes. Je voudrais donc m'apesantir essentiellement sur les réalisations des recettes au niveau de la DGDA. Je voudrais ici indiquer que en 2010, comme vous l'avez bien suivi à cette époque-là, le gouvernement avait déjà institué ce qu'on avait appelé le pacte de doublement des recettes. Et donc en 2010, la DGDA a pu réaliser 754 milliards de francs, ce qui est l'équivalent de 832 millions de dollars américains. En 2011, la DGDA a réalisé 1,1 milliard francs congolais, donc ce qui est l'équivalent de 1,88 milliard de dollars. En 2012, on est passé de 1,1 milliard en 2011 à 1,326,8 milliard francs congolais. Donc en termes d'accroissement, si on observe les statistiques, on analyse les statistiques, on se rend compte que d'une année à une autre, la DGDA mobilise plus et le taux d'accroissement des recettes est en moyenne de 33%. Bon, évidemment, cette année, compte tenu des défis auxquels fait face le pays, le gouvernement a exigé que nous puissions doubler les réalisations de 2012. Comme en 2012, nous avons réalisé, comme j'ai dit tout à l'heure, 1,326 milliards de francs congolais. Donc il est question que nous puissions réaliser en 2013 2,653 milliards. Donc, au lieu d'un accroissement moyen
de
33%,
il nous fallait au-delà.
Il nous est demandé de faire un accroissement de 100%.
Voilà. Est-ce que vous en avez, donc, vous disposez d'un plan qui va permettre de doubler les recettes conformément aux souhaits du gouvernement congolais? Si oui, quels sont les axes majeurs et les actions prioritaires?
Oui, effectivement, la DGDA dispose d'un plan d'action. Un plan d'action qui s'articule autour de quatre axes majeurs. Le premier axe, c'est l'axe qui a trait à l'amélioration du niveau des recettes. Le deuxième axe a trait, n'est-ce pas, au civisme fiscal, ainsi que le civisme fiscal, ça c'est dans le chef évidemment des opérateurs économiques, mais aussi en ce qui concerne les agents, le renforcement de l'intégrité, de la déontologie professionnelle. Mais aussi, le troisième axe, c'est la lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude, parce que comme vous le savez, si nous voulons passer d'une moyenne de 33% que nous faisons chaque année d'accroissement, et arriver à 100, il nous faut absolument lutter contre la fraude. Et enfin, il y a le dernier axe, c'est le renforcement des capacités. Donc, dans le renforcement des capacités, il est question, justement, de faire en sorte que l'homme qui est au centre de l'action soit suffisamment formé, mais aussi renforcer les capacités de notre administration sur le plan matériel, notamment en ce qui concerne l'informatisation, ainsi que les autres actions que nous pouvons mener en termes de déploiement des immeubles et de tous les autres moyens
d'action. Oui, parce que vous avez parlé des renforcements de capacités et vous avez mis l'accent sur l'informatisation. Aujourd'hui, il y a un problème réel au niveau de Matadi. Il est temps peut-être de revenir aussi sur certains d'autres axes. L'administration douanière est très lourde. Très lourde du fait qu'elle n'est pas informatisée. Alors, tout s'est fait avec du papier. Tout s'est fait avec du papier.
Bon, je voudrais corriger un peu ce que vous venez de dire. Mm-hmm. La douane congolaise est effectivement informatisé. Donc, comme vous le savez, en ce qui concerne Matadi, c'est depuis 2003. D'ailleurs, à l'époque, moi-même, j'étais directeur provincial au niveau de Matadi, que nous avons lancé le guichet unique au niveau de Matadi. Alors, nous l'avons lancé, évidemment, avec un logiciel de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, qui est un organisme spécialisé des Nations Unies, que nous appelons le SIDONIA, donc le système douanier automatisé. Alors, ce lancement s'est fait sur base de la version 2.7 de ce logiciel. Dans l'entretemps, je crois en octobre 2010, nous sommes passés à la version que nous appelons le SIDONIA +++. Alors, là je voudrais effectivement confirmer que dans toutes ces versions, que ce soit la version 2.7 ou SIDONIA +++, on utilise du papier. Alors, il est question qu'à partir de la semaine prochaine, que nous puissions basculer sur une nouvelle version que nous appelons les SIDONIA Road. Alors cette version, c'est une version qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle la douane sans papier. Évidemment, nous n'allons pas basculer sur cette version au niveau des Matadi. Nous avons choisi d'abord des sites pilotes, donc des sites où nous allons expérimenter cette nouvelle version. C'est notamment CEP Congo, ici à Kinshasa, mais aussi CEP Congo, ce que nous appelons HRS, au niveau de l'aéroport d'Engili. Alors, une fois que nous allons tester cette nouvelle version du SIDONIA, nous allons implémenter cette version dans 4 mois à Matadi.
Donc tout ça, c'est dans l'objectif d'alléger un peu la procédure douanière.
Absolument. Comme vous le savez...
Parce que ce qui est à la base aujourd'hui, et d'ailleurs, quand les commerces mortels en parlent de l'engorgement du port de Matadi.
Bon, l'engorgement a plusieurs causes. Parce que comme vous le savez, la douane n'opère pas seule au niveau du port de Matadi. Il y a plusieurs intervenants. D'ailleurs, nous sommes le seul pays au monde où, au niveau des frontières, où on assiste à une multiplicité d'intervenants. Donc, il peut arriver que nous, au niveau de la douane, que nous puissions améliorer nos procédures. Là, par exemple, je peux citer les chiffres de Doing Business. Le Doing Business indique qu'entre le moment où on commande une marchandise en RDC, le moment où elle sort et elle arrive, qu'elle doit arriver auprès de l'opérateur économique, ça prend à peu près 66 jours. Et dans les 66 jours, vous avez 49 jours, c'est le temps qu'en moyenne on prend pour réunir les autorisations préalables au dédouanement. Il vous faut avoir des autorisations notamment en termes de licences au niveau des banques. Et heureusement que la Banque centrale vient de mettre sur pied un logiciel pour dématérialiser l'obtention des licences. Vous avez des autorisations bivac qu'il faut avoir pour le contrôle avant embarquement. Vous avez des autorisations au niveau des ministères.
Le ministère de Santé.
Le ministère de Santé, quand vous devez importer des produits pharmaceutiques. Il y a des autorisations au niveau de l'ANAPI et ministère du Plan et des Finances quand vous voulez être exonéré. La même chose au niveau du ministère des Mines pour les miniers. Et ça prend 49 jours. Donc, le reste du délai, donc 17 jours, est composé de la manière suivante. Vous avez à peu près 8 jours pour le dédouanement au niveau de la douane et tous les services techniques. Comme j'ai dit, la douane n'est pas seule au port. D'ailleurs, il a été démontré que deux fois, le délai chez nous est très court, mais c'est les autres services qui nous entourent, qui des fois ont des délais très longs.
Mais pourtant, l'expérience du guichet unique, ça pourrait être une solution idéale pour permettre à ce que cela soit fait en toute rapidité et aussi permettre à ce que le port puisse respirer.
Absolument. Donc je disais que le délai tel que décomposé par la Banque mondiale dans les enquêtes de Doing Business démontre clairement que le gros du délai, c'est en amont du dédouanement, de ce que nous appelons le pré-dédouanement. Mais après, le dédouanement aussi, il se pose un problème de localisation, n'est-ce pas, des conteneurs, il se pose un problème de manutention, et donc, en définitive, mais aussi un problème d'acheminement. Comme vous le savez, le chemin de fer chez nous ne fonctionne pas très bien, alors que le port de Matadi avait été conçu pour comme un port de transit et pour un acheminement par voie ferrée entre Matadi et Kinshasa. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs qu'au niveau du gouvernement, depuis 2009, nous travaillons sur la mise en œuvre d'un guichet unique intégral. Donc, pas seulement un guichet unique au niveau de la douane, mais un guichet unique qui va prendre en compte les aspects de prédédouanement, là où ça prend 49 jours, qui va prendre en compte les aspects du post-dédouanement, donc tout ce qui est manutention et autres, là où ça prend actuellement à peu près 9 jours. Et l'option levée au niveau du gouvernement, c'est d'avoir un guichet unique intégral électronique. Donc faire en sorte que dans tous les compartiments du guichet unique, en dehors du guichet unique au niveau de la douane, qu'on n'utilise pas du papier. Et nous venons de vous dire justement qu'en ce qui nous concerne pour la partie douane, déjà dès la semaine prochaine, nous allons expérimenter la phase sans papier au niveau des CEP.
Voilà, on va poursuivre avec vous. Le temps d'accorder la parole à nos auditeurs, nous les rappelons, qu'ils doivent intervenir au 081 890 6315.
Parole aux auditeurs.
Maître Machaka est à Lubumbashi, Théodore Ambujimaï, Pedro à Guémena. Maître Machaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Gier, et bonjour à l'invité, bonjour à tous les invités de la radio.
Voilà, je disais tout à l'heure, la lourdeur administrative douanière constitue un frein pour le désengorgement du port de Matadi et aussi un facteur de contre-performance pour les régies financières, dit certains observateurs. Pourtant, pour l'exercice fiscal 2013, le gouvernement congolais souhaite que les régies doublent leurs incitations. Alors, pensez-vous que l'amélioration telle que notre invité vient d'aborder tout de suite avec l'informatisation des circuits d'information auprès de tous ces intervenants, ça pourrait réellement ça devrait donc réellement contribuer à la performance des régies financières et aussi dégager les ports de Matadi.
Merci beaucoup, M. Gilles, de m'avoir accordé la parole. Vous savez, en suivant notre invité, il a bien donné les prévisions de les recettes qu'ils doivent réaliser selon certaines périodes. Et la question que je voulais poser à notre invité, c'est celle de savoir, est-ce que, quand ils font de telles prévisions, ils tiennent compte aussi des nouveaux investisseurs qui viennent et de certaines entreprises qui peuvent encore importer, hormis de ces entreprises qui existent? Ça, c'est la première question. Hormis ça, j'avais une préoccupation concernant l'engorgement du port de Matadi. Vous savez, le problème qui est là, l'informatisation et consorts, c'est une bonne chose, mais ce qui paralyse les histoires souvent de ces gérants là-bas, c'est l'absence de la conscience professionnelle de nos agents qui travaillent dans sur nos frontières, de ces gérants. BD, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de services de l'État cherchent, des agents de l'État cherchent à mystifier leurs services. En mystifiant leurs services, les CGR, ils rendent les histoires compliquées. Et ce qui favorise même la fraude, puisque, vous savez, en matière des affaires, les CGR, c'est le temps qui compte. Quand un opérateur économique voit que la voie de l'État, ça prend beaucoup de temps, il cherche les magouilles, comment faire sortir ces histoires. Alors, ce que moi je voulais proposer au ministère des IPED, les CGR, pourquoi le système de mutation a disparu dans notre administration messagère? Puisqu'aujourd'hui, quelqu'un se trouve là-bas, il a déjà fait 30 ans. Il n'est pas déplacé. Il fait ce qu'il fait. Peut-être si on changeait les équipes, les nouvelles équipes qui pouvaient venir là, peut-être en voulant gagner la confiance de l'État, ils pouvaient améliorer les conditions du travail. D'aider messagère, le ministère des IPED doit organiser, doit créer une commission de suivi et de douanement de certaines histoires. Dans quel sens, M. Gier? Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas un nombre déterminé de conteneurs qui doivent être dédouanés par jour. D'où les agents font ce qu'ils font, ils peuvent dédouaner 10 conteneurs par jour. D'où ce que je pouvais proposer et que le ministère des Intérieurs puisse donner un barème aux services de frontières. Ils disent, par exemple, par jour, vous devez faire sortir 50 conteneurs, par exemple. Après un certain temps, il passe en contrôle, la commission la contrôle. Une commission des gens sérieux, des gens conscients, ils vérifient. On vous avait dit par jour, de telle date à telle date, vous devrez dédouaner autant de conteneurs. Mais ici, nous voyons, ce nombre-là n'est pas atteint. N'est pas atteint. Mais là, ils doivent avancer les raisons qui fait que
oui,
ces
oui.
nombres-là ne sont
oui,
pas atteints.
Maître,
ils sont motifs à
oui,
ce
moment-là,
les sanctions soient...
Oui, Maître Massac, on a compris, mais avant qu'on se sépare avec vous, hein, vous qui êtes au Katanga et plus précisément à Lubumbashi, vous avez quand même une idée hein, sur ce qui se passe à Kasumbalesa.
Si, si, messager, nous avons une idée, messager. Je sais que, à partir du jour plus, la lourdeur qui se trouve à Matadi, c'est ce qui se trouve ici à Kasumbalesa. Les services de l'État mystifient toujours les services. C'est pour cela, vous savez, à Kasumbalesa, il y a les termes qu'on appelle les bilanga. Beaucoup de commerçants. Il faut passer les histoires en fraude là-bas. Maintenant, c'est l'État congolais qui perd. Hein, ils voient que non, ici, ils doivent, ça va prendre beaucoup de temps. Ils préfèrent s'arranger, faire sortir les histoires dans les bilans là-bas, dans les voies là illégales.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Maître Machaka, d'avoir appelé de Lubumbashi. Nous retenons trois choses. Vous avez parlé de la conscience des agents et vous souhaitez qu'on revienne sur le système de permutation et aussi que le gouvernement pense à une commission de suivi pour déterminer les nombres de conteneurs. Et vous avez donné, pour terminer donc, un exemple de ce qui se passe à Kasumbalesa dans les cadre de la fraude, hein, ce que tu as appelé communément donc bilanga, c'est ce que veut dire dans la traduction littéraire, donc c'est le champ, voilà, merci, donc c'est pour aller récolter quelque chose qu'on a semé. Merci beaucoup Maître Machaka. Théodore, vous êtes en Boujimaï, bonjour.
Bonjour, merci pour la parole.
Voilà, Théodore, disons, vous pensez que tout ce que notre invité a dit pourrait peut-être contribuer à la performance des régies financières et aussi dégager un peu nos frontières qui sont parfois très 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 lourdes à l'administration douanière.
Je crois que notre invité a bien parlé sur la performance et la modernisation de cet organisme douanière. Mais si aujourd'hui les gouvernements demandent, moi je parle en ce qui concerne les assignations qu'on doit doubler. Mmh. Si aujourd'hui le gouvernement demande aux services douaniers de doubler leurs assignations, pour moi, c'est une erreur double. Pourquoi? De un, vous voyez d'abord, nous importons plus et moins d'exportations. Chose qui fait que même sur terrain, on n'a pas beaucoup de devises parce qu'on n'exporte pas. De deux, les opérateurs économiques subissent des doublements des assignations à la douane s'ils subissent aujourd'hui ces assignations. Il faut s'attendre aussi que sur les points de vente, en évacuant la marchandise sur les points de vente, il y a encore un doublement qui est au service des impôts. Vraiment, c'est double. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement, au lieu de doubler les assignations comme telles, il faut d'abord créer et augmenter l'exportation tout en diminuant la douane et encourager les opérateurs économiques pour bien évoluer. J'ai un ami qui est à Lubumbashi, qui dédouanait l'histoire à Lubumbashi. Aujourd'hui, il n'est pas à Lubumbashi. Là-bas, il y a trop de charges. Maintenant, ils préfèrent dédouaner l'histoire au Bas-Congo. Là, c'est moins. À Lubumbashi, ça ne va pas. Beaucoup de gens sont en train de perdre même leur capital. C'est ainsi que nous disons, beaucoup d'impôts, sur l'impôt, on doit changer vraiment la forme des choses.
Merci beaucoup, Théodore. Pedro, vous êtes à Guémena. Bonjour.
Et bonjour Radio Capi, bonjour à notre invité.
Bonjour Pedro, vous avez suivi vos prédécesseurs, Maître Machaka et Théodore, qui ont donné quelques propositions sur la question. Pensez-vous que l'amélioration des conditions liées aux procédures douanières devra réellement contribuer à la performance des régies financières?
Bien, merci Monsieur le journaliste. Ce qui nous tire surtout ici en République démocratique du Congo, cet esprit de favoritisme qui existe ici chez nous, la population congolaise. Pourquoi je dis ceci? Parce que j'étais par exemple au port de Bakongo, à Zongo et ainsi de suite. Mais si vous arrivez au port, l'esprit de ce favoritisme, je dis, parce que vous comprenez, une personne qui a des relations avec le dirigeant de l'OFIDA ou bien d'autres services de recettes, il y a aussi cet avantage que ces marchandises puissent passer librement. Et toutes ces marchandises qui sont en train de passer librement, ce sont des recettes qui peuvent entrer dans notre trésor public. Je ne dis qu'on ne vient pas sur les calculs que notre DGDA, à peine il a fait, mais pour moi, s'il y a du sérieux au sein des services, s'il y a du sérieux au sein des gens de l'OFIDA, vraiment, on peut voir l'augmentation de ces recettes. Parce que, j'ai fait aussi la deuxième constante, si on envoie même les gens de l'OFIDA, les gens des DGDA d'aller faire des contrôles, si on est en train de leur donner quelque chose qui pourra aider leur famille, qui pourra leur aider dans la vie quotidienne, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas vraiment de contrôle effectif. Comment est-ce que nous allons voir qu'il y a l'augmentation des DGDA? Pour moi, je vois que ces calculs que le directeur des DGDA fait, c'est bon, mais pour moi, je vois que c'est peu. C'est peu, contrairement à la disposition de notre service de DGDA, contrairement aux recettes qu'ils sont en train de faire. Parce que tout l'argent qu'ils sont en train de percevoir au sein des ports, en tout cas, toute cette somme n'arrive pas à rentrer vraiment effectivement dans la recette publique. En tout cas, pour moi,
merci beaucoup, Pedro, d'avoir appelé de Kemena. Vous revenez d'ailleurs sur ce que vos prédécesseurs ont dit tout à l'heure. Maître Machaka qui a parlé de la conscience des agents. Vous revenez sur l'aspect sérieux, ce qui veut dire que ces agents ont aussi besoin de civisme. Nous allons revenir avec notre invité pour nous faire une idée sur ce qu'a été donc la campagne sur le civisme fiscal. Merci beaucoup, Pedro. Nous prenons Emmanuel et puis on va terminer cette première série des auditeurs avec Eddy qui est à Lubumbashi. Emmanuel, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Skiev. Voilà. Et bonjour à l'invité.
Voilà, bonjour Emmanuel, et vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais juste donner une petite contribution par rapport au sujet du jour.
Oui, allez-y.
Tout ce que mes prédécesseurs ont dit reste valable. Et je voudrais tout simplement demander à l'invité si les services compétents peuvent accorder une importance sur la lutte contre la corruption dans nos ports. J'ai entendu, par rapport aux gens que j'envoyais pour dédouaner des marchandises, j'ai douté, je suis allé sur place, mais ce que j'ai vécu, non, c'est fait à dessein.
Oui,
la conscience professionnelle n'est plus,
oui, Emmanuel.
Et c'est la corruption qui bat le plein.
Emmanuel, je crois parler en termes clairs, vous avez été où? À Matadi
À Matadi et à Boma.
À Matadi et à Boma, oui, qu'est-ce que vous avez...
Un dossier ne peut pas avancer si vous ne mettez pas un $20 ou un $50 au-dessus. Et un agent qui est commis à un service peut quitter son bureau pour 2 heures, 3 heures, au lieu de rester au bureau pour libérer les dossiers et désengorger les ports. Donc ça, c'est un réel problème.
La corruption.
Il faudra que les services compétents puissent s'y pencher.
Voilà, merci beaucoup Emmanuel de nous avoir donné cette précision. C'est vrai, on va revenir avec notre invité. Et c'est vrai qu'avec pompe, on a vu cette régie financière organiser une campagne sur le civisme fiscal. Ben, où en est-on? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, la corruption bat son plein dans les systèmes douaniers. Merci Emmanuel d'avoir appelé de Kinshasa. Eddy, on va terminer avec vous cette première série des auditeurs. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Chier.
Voilà, Eddy, vous avez la parole.
Bon, avant toute chose, j'aimerais quand même féliciter l'OFIDA pour les réalisations jusque-là réalisées. Maintenant, le problème, on demande à l'OFIDA de doubler les recettes. Est-ce qu'avec le même outil, c'est-à-dire avec le même nombre de quais, la qualité de nos quais, monsieur Chier, observez un peu. Ici, de notre côté, à Kasumbalé, on vous dit qu'il y a au moins 300 tracts qui attendent de passer pour les opérations de dédouanement. Pourquoi on ne peut pas investir, agrandir, par exemple, la porte d'entrée? Si aujourd'hui, on est capable, je ne sais moi, de faire dédouaner au moins 100 tracts ou 150 tracts par jour, faire de sorte que demain, nous soyons capables de faire entrer même 300 tracts. Parce que c'est inconcevable. 300 tracts par jour qui attendent. Lorsque vous arrivez de l'autre côté, c'est-à-dire en Zambie, vous devez attendre quelques jours, je ne sais moi, une semaine ou 8 jours, pour maintenant avoir accès à la porte d'entrée. Pourquoi on n'investit pas dans la douane? Est-ce qu'on a investi dans la douane? C'est bien de demander de doubler. Maintenant, est-ce que le gouvernement a prévu? Par exemple, j'ai appris qu'il faut acheter les caméras de surveillance. Par exemple, agrandir les portes. Par exemple, ici au Katanga. Il y a une demande pour qu'on ouvre une poste, qu'on ouvre un poste douanier du côté des Solouezi à Kolwezi. Pour désengorger un peu Kasumbalé. Là où, à Kasumbalé, il y a des tracts et des tracts qui attendent. Pourquoi ne pas ouvrir du côté des Solouezi là-bas? Pour qu'il n'y ait pas de tracts qui attendent. Parce que plus les marchandises entrent, il y aura même un effet sur le prix. Le prix va baisser. Moi, j'aimerais poser des questions. L'investissement dans la douane. Et aussi, j'aimerais demander à notre invité de me dire un peu, le guichet intégral, c'est pour quand l'effectivité? Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup, Eddy, d'avoir appelé de Lubumbashi. 081-800-9063-15. Vous avez également la possibilité de nous envoyer vos réactions à notre courriel pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Gabriel Mouepou, vous avez suivi, en tout cas les auditeurs, vous avez suivi leurs interventions. Les uns parlent de la lutte, ils reviennent sur cette question, sur la lutte contre la corruption qui bat son plein aujourd'hui dans les différentes frontières. Les autres également ont insisté sur l'outil que vous avez pour lutter contre la corruption, notamment pour réellement doubler les recettes. Vous avez parlé tout à l'heure des plans d'action que vous avez. Si on peut revenir d'abord en mettant un accent sur les civismes fiscaux, qui ne concernaient pas seulement les contribuables, hein, qui ne concernaient pas seulement ceux qui viennent des douaniers, mais aussi des agents. Question de permettre à ce que l'administration douanière soit allégée et ainsi permettre la grande performance et désengorger les ports.
Merci beaucoup, Monsieur JR, pour la question. Je pense que quand nous avons donné les axes majeurs de notre programme d'action en ce qui concerne l'année 2013, d'ailleurs c'est un programme qui s'inscrit dans un plan stratégique sur 3 ans, il y a un axe effectivement réservé au civisme fiscal. Mais j'ai dit que le civisme fiscal, au fait, par définition, concerne plus les opérateurs économiques. Parce que comme vous le savez, à travers le monde, ce n'est pas de gaieté de cœur que les opérateurs économiques paient les impôts. Alors, ce que on doit faire aussi, c'est les sensibiliser pour leur faire comprendre qu'ils doivent payer les impôts. Parce que les nations les plus fortes que nous avons sur Terre, ces nations-là vivent grâce aux impôts. Alors, nous constatons que chez nous, beaucoup d'opérateurs économiques n'aiment pas payer les impôts. Et donc, c'est pour cela que il a été lancé cette campagne au civisme fiscal depuis l'année 2010. Et actuellement, nous sommes en train de travailler avec la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, qui a une commission, justement, qui s'occupe, justement, de la campagne au civisme fiscal. Nous avons pensé qu'en recourant à la CENCO, comme l'Église catholique a des paroisses à travers toute la République, cette vulgarisation va continuer. Mais aussi, comme vous venez de le souligner, au niveau de la douane, nous parlons au fait de l'éthique professionnelle. Nous parlons du renforcement de l'éthique professionnelle. Et pour y arriver, évidemment, nous avons des instruments. Nous avons ce que nous appelons le code éthique professionnelle. Vous savez que les agents de douane sont d'abord des agents des services publics. Et donc, nous travaillons avec l'Observatoire national en matière d'éthique pour vulgariser d'abord le code éthique professionnel de l'agent des services publics. Mais aussi, la douane, les douaniers ont leur code éthique professionnel. Donc, c'est un agent de douane qui arrive à la douane. Donc, on lui remet ce petit livre qui doit être pour lui comme un petit...
Comme une charte pour lui permettre
un guide. Un petit bréviaire qu'il doit avoir avec lui. Mais aussi, il y a des mesures. Je crois que vous avez suivi dernièrement, par exemple, au niveau du Bas-Congo, que le ministre a annoncé...
La suspension...
La suspension...
D'un directeur de...
Directeur provincial.
Ça, c'est à titre aussi, conservatoire.
À titre conservatoire. Il a aussi annoncé le relèvement de leurs fonctions d'une centaine d'agents qui ont fait trois ans. Plus de trois ans au niveau du Bas-Congo. Donc cette mesure qui a commencé, disons, ce n'est pas la première fois qu'on le fait, nous rotons régulièrement...
Mais l'idéal aurait été, comme l'a évoqué un auditeur, de revenir au système de permutation, peut-être chaque année, ou deux ans après, ou trois ans peut-être.
Mais ce que nous faisons, justement, dans notre plan anticorruption, il est prévu, justement, des rotations régulières des agents. Donc, non seulement le renforcement des sanctions, sanctions positives pour les agents qui travaillent bien, mais aussi les sanctions négatives pour ceux qui ne travaillent pas bien, il y a l'aspect rotation régulière. Donc les agents, par exemple, qui ont été relevés de leurs fonctions au niveau du Bas-Congo, ce n'est pas qu'ils ont commis des fautes professionnelles. Les 68 agents qui ont été relevés, c'est parce que tout simplement, ils ont atteint l'âge que nous estimons comme étant l'âge limite d'affectation dans une province. Parce que plus vous restez longtemps dans une entité, plus
vous familiarisez
avec les opérateurs économiques. Ah, parce que la corruption, il y a deux intervenants. Il y a le corrupteur
et le corrompu.
Donc, pour casser cette chaîne entre le corrupteur et le corrompu, on fait des rotations.
Mais à un certain moment, la DGDA avait pensé aussi à la télésurveillance. Où en est-on? Parce que ça pouvait être aussi un instrument de lutte contre la corruption, avant qu'on revienne sur ce que les auditeurs ont dit.
Bon, la télésurveillance peut aider en termes de lutte contre la corruption, mais aussi en termes de lutte contre la fraude. Je voudrais ici indiquer notamment qu'en ce qui concerne le port de Matadi, il est prévu, parce que nous avons des informations qui font état du fait que, à la sortie notamment, au niveau de la sortie, il y a plusieurs tables et plusieurs services. À chaque table, non seulement qu'on doit déposer le dossier normal, il faut, comme l'a relevé un des auditeurs, annexer un $20, un $10 pour que le dossier circule. Alors, vous voyez que si nous mettons des caméras de télésurveillance qui montrent en temps réel ce que les agents sont en train de faire à la sortie là, et s'ils sentent qu'ils sont surveillés et que celui qui demande $20...
Jusque-là, les projets sont encore en phase expérimentale. Parce que nous avons appris que c'est au niveau... Vous avez des télésurveillances au niveau de Beach, de Kinshasa, à Kasumbalesa et Sikamatadi.
Oui, à Matadi.
Et pourtant, nous avons des frontières qui sont très poreuses, qui ne sont pas très surveillées.
Bon, justement, là j'ai abordé l'aspect lutte contre la corruption, mais il y a aussi l'aspect lutte contre la fraude par la télésurveillance. Donc ici, par rapport à l'aspect lutte contre la corruption, donc comme je disais, la commission gouvernementale qui a séjourné au Bas-Congo dernièrement a décidé que nous puissions travailler avec notre partenaire à la matière, donc l'entreprise sud-africaine AFS, pour orienter, parce que nous avons déjà une caméra au niveau du port de Matadi, pour l'orienter sur les entrées, pour dissuader les agents qui sont là à pouvoir demander rançonner les opérateurs économiques. Mais la télésurveillance, c'est surtout pour lutter contre la contrebande. Comme vous le savez, la RDC a des frontières avec 9 pays voisins. Donc nous sommes l'un des pays avec des frontières aussi vastes. Il est difficile matériellement pour un pays comme le nôtre qui a une dimension sous-continentale d'avoir à surveiller à tout le point les frontières.
Donc, au moindre détail. Donc
au moindre détail, c'est difficile. Ce qui fait que dans plusieurs pays actuellement, on recourt notamment soit à la télésurveillance ou alors on recourt, comme vous l'avez suivi dernièrement, à l'utilisation des drones. Qui peuvent permettre de surveiller les frontières efficacement. Alors, en ce qui nous concerne, nous, au niveau de la douane, nous avions déjà commencé depuis 2007 à travailler avec une entreprise sud-africaine qui s'appelle African Union Financial Services, qui nous a permis déjà d'implanter des caméras de surveillance à Kasumbalesa. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que si vous passez chez nous à la direction générale, nous voyons ce qui se passe à la frontière à Kasumbalesa.
En temps réel.
En temps réel. Mais aussi, il y a des centres de monitoring au niveau de Kasumbalesa, Whisky, donc à quelques kilomètres de la frontière. Nous avons des caméras de surveillance ici à l'aéroport d'Njili. Nous avons des caméras de surveillance ici au Beach. Nous avons des caméras de surveillance, comme on a dit tout à l'heure, à Matadi, mais aussi à Goma. Bon, ça c'était en fait la première phase. Donc il est question que nous puissions aller vers d'autres points de la République. Parce que les caméras, ce sont des caméras à longue portée. Donc ils permettent de balayer la frontière sur un espace de 15 kilomètres. Et c'est des caméras avec infrarouge. Donc même la nuit, on sait voir ce qui se passe. Alors, ce qui doit se faire en matière de lutte contre la contrebande, c'est non seulement surveiller et avoir des images, mais aussi avoir des moyens d'intervention, en termes de véhicules, en termes de canaux rapides. Dès qu'on détecte un mouvement suspect, à ce moment-là,
on sait intervenir rapidement
et, n'est-ce pas, lutter contre la fraude. Donc, ces projets-là, il est en cours, comme je l'ai dit, il est opérationnel, mais nous sommes en train de travailler avec notre partenaire, notamment AFS, pour acquérir justement les moyens d'intervention, en particulier les véhicules et autres.
Voilà, on va accorder la parole à Théophile, à Jean et à Néné, avant de revenir encore sur certains propos des auditeurs. Théophile est à Kananga, Jean à Kinshasa et Néné à Arou. Théophile, bonjour.
Bonjour, Pierre, et bonjour, Alain.
Et merci de nous rejoindre. Théophile, vous avez la parole.
Oui, je vous remercie la parole. Moi, je considère cette émission comme étant une pierre à mettre sur...
Voilà, Théophile, on vous saisit difficilement. Hein. Si vous pouvez parler un peu très fort, là, parce que là, on vous capte difficilement. C'est à peine qu'on comprend ce que vous dites.
Bon, je dis que l'émission est très intéressante. Il y a les autres qui ont déjà dit... de bonnes choses. Je voudrais ajouter ceci. Puisque dans la période de la reconstruction de ce pays, je crois que c'est vrai que les autres ont dit
c'est valable.
Juste, est-ce qu'on ne peut pas réaliser un projet de port de port à
nos profondes?
Est-ce qu'on ne peut pas revoir la politique de la réconstruction de notre chemin de fer qui part de Matadi jusqu'à Kinshasa pour désengorger le port de Matadi. Cela permettra ainsi à notre pays de douane pouvoir travailler à temps et constituer des recettes suffisantes pour la.
Voilà, merci beaucoup Théophile. Jean, vous êtes à Kinshasa, nous rentrons dans la ville-province de Kinshasa. Jean, bonjour. Voilà, parlez plus fort Jean.
Oui, ok. Je voulais poser une question à l'invité, savoir que est-ce qu'il est permis dans le cadre de surveillance électronique que, par exemple, nous avons des militaires qui se trouvent, ou des colonels, des majors, qui, quand vous allez pour dédouaner certaines choses au niveau de Matadi ou bien de Goma, qui vous facilite facilement la chose. Est-ce que l'argent que les clients donnent à ces
militaires
de sécurité arrive-t-il à la caisse commune? Parce qu'avec ça, vous allez passer moins de jours. Il a parlé de 8 jours, mais avec la coopération avec le major, le colonel, quelque part, l'histoire sort vite. Alors, quelle est la part du gouvernement, la part des entreprises dans l'argent que nous donnons aux militaires? Et puis nous voulions dire, voilà, la surveillance électronique et tout ça, c'est bien. Mais l'invité n'a pas à se jeter lui-même des fleurs. C'est à nous, pour voir l'efficacité de son travail.
Tout à fait.
Dire que voilà, vous avez fait tel travail. Mais lui, il se présente comme un défenseur. Il défend son entreprise. Non. Il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup vraiment à faire. Maintenant, le vrai problème, c'est faire.
Voilà, Jean, selon vous, qu'est-ce qui reste encore à faire concrètement aujourd'hui? Nous avons posé la question. Est-ce qu'on pense que ce que proposent les régies financières avec leur plan d'action et aussi pour arriver à désengorger les ports de Matadi avec des télésurveillances et aussi avec la douane sans papier, donc l'informatisation des circuits d'information et apportant de tous ces intervenants dans le système douanier, est-ce que vous pensez que on peut arriver à la grande performance des régies financières? Et vous, personnellement, vous pensez qu'est-ce qui reste encore à faire concrètement?
On va arriver à la grande performance si nous mettons les gens sérieux à la place qu'il faut pour faire un travail sérieux, un travail contrôlé par les autres. Mais si vous mettez quelqu'un dans un poste pour travailler et qu'il n'est pas contrôlé, ce qu'il fait là-bas, il manigasse des choses qu'on ne sait pas contrôler et puis ça entre à la défaveur de l'entreprise.
Voilà, merci d'apporter cet élément nouveau, hein, le suivi évaluation. Nous verrons avec nos invités comment ça se passe au niveau des systèmes de régie financière. Merci beaucoup, Jean, d'avoir appelé de Kinshasa. Néné, vous êtes à Arou. Bonjour, Néné.
Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour à l'invité. Et bonjour aux auditeurs de la radio Kapi.
Voilà, Néné, vous avez la parole.
Oui, je suis avec attention l'émission. La performance, c'est bien, mais il y a aussi des aspects que nous ne devons pas oublier. Le gouvernement, qui cherche qu'on double les recettes, il doit aussi tenir compte des agents, par exemple, qui travaillent. Parce que j'ai suivi des amis qui parlaient des fraudes, qui parlaient de la corruption, tout ça. Mais est-ce qu'on tient compte de la personne, de l'individu qui travaille pour produire cet argent? Il est payé comment? Comment est-ce qu'il est pris en charge? Parce que dès lors qu'on ne prendra jamais cet aspect-là en compte, la corruption ou la fraude va toujours continuer dans ce pays. Alors, le deuxième aspect, c'est quoi? L'argent qu'on est en train de produire, mais nous ne voyons pas les effets sur terrain. Je prends l'exemple ici chez nous à Arou. Il y a une douane ici, je pense l'invité connaît très bien, la douane d'Arou. Et il y a à côté de nous, à 15 km d'Arou, un grand centre de négoce à Riwara. Mais il faut voir l'état de la route entre Arou et Riwara.
Oui, je crois que donc, Néné,
on va... 45 km, mais les véhicules passent comment? Il faut que l'État demande qu'on puisse augmenter
les recettes,
la production, tienne compte aussi.
Il faut qu'il y ait un impact sur la
société. Là, c'est sur la tête des opérateurs économiques.
Oui, Néné, je crois que Parole aux auditeurs va revenir sur ce débat.
Sur la population qui est le dernier consommateur.
Oui, Néné, je crois que Parole aux auditeurs, s'il vous plaît, on peut s'écouter. On peut s'écouter, Néné. Je crois que Parole aux auditeurs, ne nous égarons pas. Parole aux auditeurs reviendra sur cette question. Vous nous proposez d'ailleurs là un sujet, hein, sur l'impact. Oui. On demande de doubler les assignations, mais c'est vrai, on ne sent pas l'impact sur la vie sociale. Donc je crois qu'on va revenir sur ça. Comment faire pour que réellement tout ce que nous remarquons du matin au soir, les régies financières disent qu'ils ont fait des grandes performances, mais sur les terrains de la vie sociale, on ne sent rien. Merci beaucoup, Néné. On va quand même y revenir et merci de nous avoir révélé la situation de la douane au niveau d'Arou. Nous prenons Kabongo qui est à Kinshasa. Kabongo, bonjour. Confiance Kabongo, bonjour. Confiance Kabongo, bonjour. Voilà, on prend plutôt Maître Donna, qui est toujours à Kinshasa. Maître Donna, bonjour.
Oui, bonjour mon frère, bonjour monsieur Jean.
Voilà, Maître Donna, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup de la parole. Moi, je voudrais d'abord, parce que les amis ont déjà dit beaucoup de choses, je voudrais poser d'abord une question à notre invité. Ma préoccupation est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, au niveau des Boma, par exemple, des Matadi et Kasumalesa, qu'on fasse une nomenclature pour dire quelqu'un qui vient pour dédouaner les voitures, par exemple, telle voiture, c'est tel prix. Toutes les taxes y compris. Quelqu'un vient avec son agent, il verse directement à la banque et la banque fait dispatcher pour tous les services. Et quand il fait ça, il verse l'argent, on lui donne les bordereaux de versement, directement il retire son véhicule. Est-ce que ce n'est pas possible? Parce que moi je pense que dans ce sens-là, ça pourrait... Il allège quand même la façon de travailler. Et la deuxième préoccupation, est-ce que au niveau des contrôles ou les directeurs qui sont à Boma ou à Matadi, parce que moi je viens de Boma il y a une semaine, ils ont vraiment le temps de voir ce que les gens font? Il y a des petits groupes qui sont séparés là-dedans. Bien confirmé ici, les frais de l'auditeur qui a dit les problèmes de $20, $10, j'étais là il y a une semaine, nous avons vu ça, ça s'est fait jusqu'aujourd'hui. Malgré tout ce qu'ils sont en train de prendre comme les mesures, c'est qu'ils continuent à se faire. Qu'est-ce qui est pris comme mesure aujourd'hui pour pouvoir empêcher ces gens-là à tracasser la population et les gens qui vont pour éloigner les enfants.
Merci beaucoup, Maître Douna. Je crois que la douane sans papier, ça pourrait résoudre tant ce problème. Monsieur Gabriel Mouépou, nous revenons à vous. C'est vrai, nous avons suivi les uns et les autres. Le problème des suivis et évaluations, on l'a évoqué. Les problèmes de la nomenclature des taxes, ça pourrait être une chose qui pourrait normalement donner une idée claire à tous les opérateurs économiques. On sait à quoi s'en tenir. Et enfin, la corruption et la fraude qui restent encore un grand défi à relever pour les régies financières.
Merci, M. Gier. En ce qui concerne le suivi et évaluation, justement, je voudrais ici indiquer qu'au niveau de la douane, nous avons un système d'évaluation qui se fait, en tout cas de manière hebdomadaire, en ce qui concerne chaque province. Mais aussi, nous avons des conférences qui se tiennent au moins deux fois par an, ce que nous appelons la conférence des directeurs. Ça, c'est pour évaluer la performance au niveau des directeurs. Alors, ce que nous avons fait, c'est que depuis l'année dernière, nous avons envoyé une mission au Cameroun pour aller essayer de voir, parce qu'ils ont un système de suivi au niveau des agents qui sont dans les opérations, ce que nous appelons chez nous notamment les vérificateurs. Parce que c'est eux qui vérifient sur le plan documentaire et même sur le plan physique de marchandises. Et donc, ils sont revenus avec la mission que nous avons envoyée est revenue avec un rapport. Alors, il est prévu déjà au courant de la semaine ici qu'une commission puisse se réunir pour définir des performances au niveau le plus bas. Et d'ailleurs, notre ministère des tutelles tient beaucoup à cet exercice parce que, comme on l'a signalé, un vérificateur peut s'asseoir sur un dossier et faire traîner le dédouanement des marchandises. Mais aussi en ce qui concerne la nomenclature, parce que j'ai entendu les critiques en ce qui concerne notamment le paiement.
Le paiement.
Oui, et qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des gens qui recourent à des militaires pour pouvoir dédouaner.
Le trafic d'influence et les interférences.
Mais justement, ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que pour que les choses marchent, on doit éviter de recourir à brimbons militaires. Parce que les textes qui existent disent qu'il faut payer auprès des banques. On ne va pas aller payer auprès d'un militaire et puis après se poser la question qu'est-ce que le militaire paye effectivement au trésor et qu'est-ce qu'il garde par devant lui. Alors ce que nous comptons faire, notamment en dehors, n'est-ce pas, du système qui existe, parce que nous avons déjà un système de guichet unique qui existe même à Boma. Donc le guichet unique c'est quoi? C'est un guichet unique de paiement notamment, où on fait en sorte que on a une facture unique, ce que nous appelons un bulletin, on appelle ça le bulletin
de paiement. Mais parlons aujourd'hui des guichets intégrales. C'est comme si guichet unique, dans les formats d'avant, c'est un échec?
Ce n'est pas un échec, c'est-à-dire que au niveau, comme vous le savez, tout œuvre humaine est perfectible. Ce que nous avons fait d'abord, c'est que nous avons travaillé au niveau de douane, pour notamment résoudre le problème comme celui qui a été posé en ce qui concerne le paiement. On a fait en sorte que on ait un guichet unique au niveau des douanes, un guichet unique de paiement. C'est-à-dire que au niveau de la douane, au fait, on sort une facture unique, qu'on appelle d'ailleurs le bulletin de liquidation. C'est sorti par le système informatique de la douane. Alors sur base de ce bulletin, qui reprend au fait toute la nomenclature des taxes à payer, la personne doit se présenter au niveau d'une banque, pour pouvoir payer en une seule fois et au profit de tous les intervenants. Et donc, c'est la banque qui dispatche à la fin de la journée le fonds dans les différents comptes. Ça existe déjà. Maintenant, la difficulté, c'est que nous avons encore des intervenants qui préfèrent que certains paiements puissent se faire en dehors du guichet.
En dehors du guichet.
Donc, le travail que nous sommes en train de faire, c'est faire en sorte que, là où il y a des débats, par exemple, il y a des gens qui dénoncent, qu'il y a des douaniers qui sont en train de faire de fraude. Bon, on a fait un effort pour faire venir un arbitre neutre, des Vivac, qui nous permet, au fait, d'avoir une valeur que tous les intervenants, en principe, au niveau de la frontière, doivent accepter. Alors, en dehors de cela, il y a une innovation que nous comptons faire avec le guichet unique intégral. Parce que nous avons dit qu'au niveau de la douane, peut-être qu'on a amélioré, mais en amont et en aval, s'il faut 49 jours pour rassembler les autorisations nécessaires au dédouanement, mais on a en termes de doing business, nous n'avons pas fait suffisamment d'avancées. Même si au niveau de la douane, on a réduit ici, c'était peut-être un mois avant, maintenant on est à moins de 8 jours. Mais ce n'est pas suffisant. Même le 8 jours, là, c'est toujours beaucoup. Donc, nous devons arriver à réduire. Et pour y arriver, nous pensons qu'il faut éviter qu'il y ait trop, il y ait du papier. Parce que à chaque table où on a un agent qui doit valiser, qui doit signer, bon,
ça crée une lourdeur.
Il a un pouvoir. En ce moment, il a un pouvoir. Mais si tout circule dans l'ordinateur de manière électronique, c'est déjà bon. Même le paiement. Je voudrais ici vous annoncer que nous avons déjà un expert dans nos murs, un expert de la commission qui est là depuis maintenant 3 semaines, qui travaille sur le paiement électronique. Donc d'ici, je pense, 1 mois, nous allons avoir les paiements électroniques ici à Kinshasa. Notamment dans les sites où nous allons passer sur les Sidonia World.
C'est-à-dire CEP Congo,
CEP Congo, OCC, DHL et après ce sera l'aéroport d'Engie. Qu'est-ce que ça signifie le paiement électronique? Ça signifie que vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Vous n'avez pas besoin même d'aller au niveau des banques. Vous donnez seulement instruction à votre banquier. Et le banquier donne aussi instruction pour que l'argent aille directement dans le compte du trésor. À ce moment-là, on n'a plus à passer voir un militaire ou quoi.
Vous accompagner pour entrer. Donc.
Voilà. Mais il y aura des intermédiaires, évidemment, le commissionnaire en douane, ça c'est pour faire la déclaration. Mais aussi, il peut arriver que la douane dise non, et vous devez venir au port pour qu'on ouvre le conteneur, notamment pour voir. Mais déjà, ces étapes-là, notamment le paiement, va être un paiement électronique. Mais au fait, nous insistons sur le fait que la lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude, c'est des axes majeurs de notre programme d'action. Nous ne voulons pas dire que nous avons tout fait, tout ce qu'il faut faire.
Vous essayez de faire
quelque chose. Nous avons dit qu'on a fait déjà quelque chose. Il y a des progrès qui ont été enregistrés. Mais ces axes-là que nous avons évoqués, que ce soit le problème de civisme fiscal et l'éthique professionnelle, que ce soit le problème de la lutte contre la fraude ou la corruption, que ce soit le problème de renforcement des capacités en termes d'informatisation et autres, acquisition des immeubles, même des infrastructures. Parce que tout à l'heure, là, notre éditeur, M. Néné, qui a parlé
des Harous.
Mais ce qu'il a dit là, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on doit avoir des bonnes routes au niveau des frontières pour permettre l'acheminement des marchandises. Mais il faut comprendre quand même aussi le gouvernement, c'est que la RDC c'est un pays sous-continent. Déjà, le gouvernement a déjà commencé à poser déjà des actes, que ce soit même au niveau de la province orientale. Moi j'ai suivi hier un reportage où le gouverneur était en train d'inaugurer des ponts sur financement du gouvernement. Donc il y a des efforts qui se font. Mais nous encourageons et le gouvernement pour poursuivre sur la même lancée pour notamment financer la construction des infrastructures.
Voilà, si vous nous permettez, il nous reste encore une quinzaine de minutes. On va prendre encore 3 auditeurs. Dorcas qui est à Lubumbashi, Jacques à Uvira, José est à Kinshasa. Dorcas, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Dorcas, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur J.
Voilà, merci de nous rejoindre, Dorcas. Hein. Vous avez la parole.
Ouais, Pierre, bonjour à l'invité, bonjour à celui qui est de l'autre, pourquoi pas, bonjour à l'inconditionnel de la...
Voilà, vous sortez entrecoupé,
ouais,
Dorcas.
Oui,
oui, allez-y rapidement.
Je disais ma préoccupation, l'homme est naturellement bon, mais c'est la société.
Dommage, vous sortez vraiment très coupé, Dorcas. Le temps que la ligne, qu'on arrange un peu la ligne de téléphone, nous allons prendre Jacques qui est à Uvira. Jacques, bonjour. Voilà, Jacques a des petits problèmes. Ok, on prend José qui est à Kinshasa. Bonjour José.
Oui, bonjour.
Voilà, José, vous avez suivi vos prédécesseurs. Il y a des auditeurs qui ont parlé avant vous. Il y a notre invité qui est revenu sur les préoccupations des uns et des autres. Vous avez à votre tour la parole pour nous aider à avoir une idée sur votre position par rapport à l'amélioration des conditions liées aux procédures douanières telles qu'évoquées par notre invité tout à l'heure. Est-ce que cette amélioration devra réellement contribuer à la performance des régies financières?
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé cette parole. En fait, tout ce que vous êtes en train de dire là, même chez les autres qui venaient de parler, c'est très bon. Mais nous avons un problème. Le problème, c'est l'homme. C'est l'homme d'abord. Parce que là, vous pouvez faire appel aux machines, écologie et tout,
mais il y aura un problème d'application. Chez nous, nous sommes mal habitués, chez nous ici au Congo. Le cas de la douane, par exemple, la douane n'est pas une entité ou une entreprise où on peut embaucher n'importe qui n'a pas une connaissance sur la matière que vous le mettez là-bas. C'est ce qui est en train de tuer aujourd'hui notre douane. Prenons le cas de la douane de Boma. Boma, aujourd'hui, comment vous pouvez vous expliquer qu'un véhicule, si tu amènes un véhicule de, je ne sais pas, une petite Toyota, vous vous déplacez de Kinshasa et vous arrivez pour faire une semaine. Et quand vous faites cette semaine-là, le frais que vous êtes en train d'engager dans des hôtels et ailleurs, ça vous coûte. Plus que ça, vous êtes bité dans des grands problèmes avec autant de bureaux qui sont devant nous. Les bureaux là, aux yeux des autorités, aux yeux de tout le monde. Et quand vous voulez parler, on vous dira que tel monsieur là vient de telle place, il a tel poids et tout. Pour moi aujourd'hui, s'il faut qu'on appelle la technologie, tout ce que vous voulez qu'on amène là, la première chose, prenons les choses au sérieux. Est-ce que vous avez le temps d'envoyer les gens, les cadres ou les agents en formation? Les recyclages, est-ce que nous avons une période de recyclage dans toutes nos douanes d'ici du Congo ici? Parce que là, même si vous amenez les caméras là, mais qui va utiliser ces caméras là? Personne n'utilisera jamais. Ou ça, après 3-4 jours ou 3 mois, on vous dira que la machine ne marche plus. Même si vous amenez aujourd'hui les scanners, on vous dira toujours la même chose. Pour moi aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse mettre la place de chaque personne à la place? Vous avez fait les études de la douane. Quelle est votre expertise? Moi, je sais faire ça. Est-ce qu'on peut te mettre à un poste où tu peux gérer au moins 50 personnes? Est-ce que vous avez cette capacité mentale, physique et tout? Mais quand vous prenez quelqu'un déjà, mieux fatigué, parce qu'il vient d'un tel, par une recommandation, vous n'avez même pas eu le temps d'examiner la personne en question. Cette personne-là se mettra au bureau pour 2 heures du temps et par après, il ferme. Et là, il est en train de faire passer le temps parce qu'il y a des dossiers qui sont devant lui et il pouvait mettre sa signature pour que les dossiers-là circulent trop vite. Aujourd'hui, commençons par l'homme. Est-ce que les gens-là conviennent? S'il y a pas quelque chose, si ces gens-là ne conviennent pas, on fait appel aux autres qui ont une autre expertise pour qu'on puisse maximiser les recettes que l'État lui-même est en train de chercher. Il ne faut pas que l'État cherche d'avoir beaucoup de recettes et en même temps lui-même l'État, il met des gens qui ne sont pas compétents.
Ça, voilà. Ce sont des histoires. Voilà, José. Ouais. Voilà, José, merci beaucoup. Hein. Nous retenons que l'application doit être démise, la formation surtout des cadres. Oui. Tout passe par là pour permettre à ce que les gens soient formés et ça nous éviterait. C'est une façon pour nous de lutter contre la corruption et la fraude. Merci d'avoir appelé José et chers auditeurs, 081-890-6315 pour participer à ces débats. Voilà, nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Merci de votre fidélité à Radio Capi et vous qui nous rejoignez. Bienvenue. Jacques, vous êtes à Ouvira, Neville à Kananga, nous allons vous accorder la parole. Avant le bulletin d'information, monsieur Mouepou, il y a un auditeur qui a, José, qui a appelé de Kinshasa et qui est revenu encore sur le renforcement des capacités en évoquant l'aspect formation des cadres. On peut beau avoir la plus haute technologie du monde, on peut informatiser le système, toujours dans les cadres de la lutte contre la corruption et la fraude, mais si ces hommes qui animent le système douanier ne sont pas formés, ça sera une goutte d'eau dans l'océan.
Oui, monsieur Gire, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Le renforcement des capacités, c'est l'un des axes majeurs de notre programme d'action. C'est le 4e axe. Et nous avons dit que dans cet axe, justement, nous mettons l'homme au centre de l'action. Parce que si on ne forme pas suffisamment l'homme, il est difficile de pouvoir faire des réformes. Par exemple, ici, nous sommes en train de parler de la douane sans papier, les Sidonia Award. Je peux vous annoncer que nous sommes en train de former...
Ça, c'est déjà pour ce 18. Le 18...
En principe, pour la semaine du 18 mars.
Donc, entre le 18 mars...
La semaine prochaine, les sites pilotes au niveau des CEP va passer sur cet environnement sans papier. Et pour y arriver, justement, qu'est-ce que nous avons fait? On a formé des déclarants. Des CEP. Donc, les CEP nous a mis à notre disposition ces déclarants qui ont été formés. Il y a les banquiers, nous avons dit que nous allons passer à des paiements électroniques. les banquiers aussi sont formés, au moins une cinquantaine de banquiers qui sont en train d'être formés pour 10 banques de la place ici. Et enfin, le douanier.
Voilà, parce que les terminales, au finish, ce sont les douaniers qui vont centraliser.
Les douaniers sont aussi sont en train de suivre la formation pour justement pour que à partir de la semaine prochaine, qu'on puisse basculer sur cet environnement et la formation va se poursuivre dans toutes les provinces de la République pour nous permettre justement à ce que ces personnes, nos cadres et agents soient à même, n'est-ce pas, de pouvoir travailler dans ce nouvel environnement. Mais je voudrais ici dire que c'est parce que c'est l'homme qui est au centre de l'action, qui a aussi un autre axe, comme nous l'avons dit, du programme, qui parle du civisme fiscal, mais qui parle aussi, n'est-ce pas, de l'éthique professionnelle, parce que tout va ensemble. Donc vous pouvez constater que sur les quatre axes du programme, il y a deux axes qui concernent l'homme.
Le civisme fiscal et puis
l'éthique professionnelle. C'est l'homme, mais aussi quand nous parlons de renforcement des capacités, il y a une dimension humaine qui est là-dedans.
Jacques Taye-Ovira, Neville Akananga et Confiance Kabongo à Kinshasa. Jacques, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, l'invité.
Voilà, Jacques, rapidement, vous avez une minute, hein, parce qu'on va accorder à chacun une minute, à Jacques, à Neville et à Kabongo, et puis on va conclure avec nos invités. Hein. Allez-y.
Je voudrais contribuer, donner ma contribution au sujet du civisme fiscal dont je viens de parler. Alors moi, je pense que si les commerçants sont rétractés, pour qu'ils ne payent plus les impôts ou différents impôts, c'est parce que l'argent qui entre dans les trésors publics, cet argent est volatilisé. Alors moi, je pense que cette vulgarisation ou la capacité sur le civisme doit d'abord se faire au niveau des autorités sur le civisme de la gestion des finances publiques. Les autorités doivent gérer les finances publiques. Et si cela est fait au niveau des autorités, de ceux qui sont à la commande, cela va se descendre automatiquement à la base. Et vous verrez que même les trois régies financières vont maximiser les recettes. Et tous les commerçants vont commencer à payer les impôts ou différents impôts sans problème. Si au niveau de ceux qui sont à la commande, ils gèrent bien la chose publique parce que l'argent entre dans leur poche. Et tout commence là-bas, dans notre pays. Cela est ainsi, vous verrez que nous allons construire notre pays, ce sera plus beau qu'avant. Tout c'est au niveau des autorités, ce qui nous
dit. Donc il faut que le civisme doit commencer par les autorités. Merci beaucoup Jacques. Neville, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous avez la parole Neville.
Oui, je voudrais non obstant à tout ce que les autres verraient de dire, il faut aussi appliquer de l'anesthésie. C'est-à-dire, il ne faut pas trop d'impôts, parce qu'on dit trop d'impôts sur l'impôt. Aussi, les gros taux sur les totaux. Voilà. Mais je voudrais prendre encore une autre paire de manches. Vous voyez, d'ici 70 ans, on est en train, dans les concerts des nations, dans les commerces internationaux généralement, on est en train d'étendre vers la suppression quasi totale des droits des douanes avec les libre-échangistes. Donc le capitalisme tend vers la suppression des droits des douanes. Dans des pays tels, dans les pays de l'Union européenne par exemple, en fait, il y a circulation libre. Hein, il y a libre circulation de la main-d'œuvre, de marchandises. Quand ça a commencé avec Benelux et aujourd'hui l'Union européenne, donc il n'y a pas des droits des douanes. Donc il faut déjà que, moi je voudrais contribuer dans ce sens, pas généralement pour les droits des douanes, mais néanmoins mettre aussi les pieds sur l'accélérateur de la production. Donc il faut que l'on produise, et lorsqu'il faut produire, c'est la production avec valeur ajoutée, hein, pas la production des matières premières, etc. Moi je crois que bon, des réformes sur les droits des douanes, etc., c'est bien beau, mais dans 70 ans pratiquement, je vous dis qu'il y aura la quasi suppression des droits des douanes et comment le pays va vivre. Donc, un pays qui compte encore jusqu'au 21e, c'est donc au 3e millénaire ici sur les droits des douanes, c'est vrai, il y aura des améliorations, mais en tout cas, ce n'est pas des améliorations très significatives. Donc, il faut penser à la production. Hein, ok, JR, je crois que vous m'entendez là.
Tout à fait, Jacques.
Oui. Donc, les réformes, c'est bien, Mais pensez aussi à la production avec valeur ajoutée, je crois que c'est une bonne chose.
Merci beaucoup, Neville. Hein. Nous prenons Confiance Kabongo qui est à Kinshasa. Bonjour, Confiance.
Bonjour à tous les acabis de la Radio de la Paix.
Voilà, on va terminer. Vous êtes le dernier auditeur à intervenir. Vous avez une minute
exactement,
30.
Exactement, j'aurai pas beaucoup de mots. Je dirais d'abord merci à la Radio Capi qui vient d'imprimer une autre dynamique pour la vision et la culture de la redevabilité. Je pense que vous êtes en train de voir le résultat. Et ça fait quand même du bien que les autorités qui gèrent la chose publique viennent nous rendre compte. Donc, petit à petit, nous allons avoir cette culture-là et démarrer à recevoir des comptes et à demander des comptes.
Oui, nous disons toujours la porte de parole aux auditeurs est ouverte à tout le monde. Donc, je crois que nous recevons les autorités en fait, c'est ça, comme vous appelez la culture de redevabilité. Ils viennent pour s'expliquer par rapport à quelques questions. Vous avez suivi les débats tout à l'heure, Confiance. Voilà, pour vous, pour améliorer, donc, vous pensez que tout passe, comme je l'ai dit, tout à l'heure, que l'amélioration de conditions liées aux procédures douanières devra réellement contribuer à la performance des régies financières.
Oui, l'invité a parlé de trois personnes, de trois éléments. Vous savez, j'ai toujours parlé de ce fait-là de mettre l'homme au centre.
Oui, rapidement.
Il a parlé de deux éléments.
Oui, rapidement.
Moi, je voudrais parler du troisième élément qu'ils ont toujours semblé oublier. C'est cette motivation-là. Je vois mal quelqu'un qui peut prendre un risque à sacrifier son travail où il est mieux payé. Donc, le troisième aspect, c'est celui de la motivation de la personne qui travaille, qui produit, et est souvent à la base de la corruption, de tout ce qu'il y a comme mot. Donc, on le forme matériellement, on doit aussi le former moralement, et surtout motiver et faciliter, si à moyen, la rétrocession de ce qu'il paye. Comme j'ai toujours dit, toutes les fois, on donne du travail aux gens, mais on ne leur dit pas ce qu'il faut faire, on ne le contrôle pas à la fin. Donc, il faudrait fixer
le
nombre de dossiers à traiter par jour, par exemple. Hein, nous autres qui avons travaillé dans d'autres secteurs...
Oui, dommage Kabongo. Kabongo, il y a des bruits tout autour de vous, et puis finalement, le temps nous fait défaut. On va accorder la parole à notre invité pour conclure cette émission, M. Mopou. Nous avons suivi les uns et les autres, c'est vrai, beaucoup de projets pour améliorer les conditions liées aux procédures douanières. D'aucuns pensent que, d'ailleurs, l'amélioration de ces conditions, ça pourrait désengorger le port de Matadi, ça pourrait rendre encore plus performante votre régie financière. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
En conclusion, c'est que l'administration douanière de la République démocratique du Congo...
Qui est du reste, on peut les reconnaître, quand même très coûteuse.
Non, je voudrais ici indiquer que s'agissant du taux de droit, les tarifs de droits et taxes au niveau de la douane congolaise est aligné sur les tarifs extérieurs communs du COMESA. C'est-à-dire nous avons le taux le plus élevé qui est de 20%, c'est celui qui est dans le tarif extérieur commun du COMESA, et nous avons un taux le plus bas qui est de 0%. Mais la particularité de la RDC, c'est comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, c'est la multiplicité des intervenants au port, et dans les aéroports, et même dans les autres postes frontaliers, c'est la multiplicité des prélèvements. Au fait, tous les intervenants viennent avec des prélèvements, et c'est la multiplicité des procédures. Aujourd'hui, nous avons axé essentiellement notre émission sur les procédures, mais il y a des problèmes aussi sur la présence, n'est-ce pas, de tous ces intervenants. C'est pour ça que nous parlons de la gestion coordonnée des frontières. Heureusement, les autorités en la matière ont publié ce qu'on appelle l'ordre opérationnel, qui fait qu'on essaie de limiter le nombre des intervenants aux frontières.
À trois.
À trois, et travailler de manière coordonnée au niveau des frontières. Mais il y a aussi le problème des prélèvements. Il y a l'année dernière, le gouvernement avait identifié à peu près 116 perceptions. Ils ont mis sur pied un plan de suppression de ces perceptions. Je pense que tout ça, on agit sur le nombre des intervenants, sur les perceptions, mais aussi comme nous sommes en train de le faire, avec tous les intervenants au niveau des frontières, on agit sur les procédures, nous pensons que les choses peuvent aller.
Merci Gabriel Mouépou. Nous rappelons que vous êtes directeur général adjoint de la DGDA, la Direction Générale de Douane et d'Assises. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu et orienté les interventions des auditeurs de tout à l'heure dans Parole aux auditeurs. Merci, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Allô? 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 Mais il ne répond pas?
Merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Jean-Claude Sala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou, Pierre Lamégie et Berry Franklin Chaka l'ont réalisé. Gilles Lungembo vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Ben Kabamba. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Lutte contre la corruption, un directeur provincial de la DGDA ainsi que quelques autres cadres de douane suspendus par le ministre délégué aux Finances. Parole aux auditeurs, en parle demain avec comme question principale, pensez-vous que ceci serait un signal fort dans la lutte contre la corruption en RDC? Inscrivez-vous déjà pour participer au débat en nous contactant au 081 890 6315 ou encore nous envoyez vos réactions à notre courriel pa@radiocapi.net. A très bientôt.